Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Au bout de la plume sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Pour ce magazine aujourd'hui, nous allons parler du recueil de poèmes Paris tenu. Pour cela, nous recevons Fabienne Chartier à l'origine de ce recueil.
C'est pas donné aux animaux, pas non plus aux premiers blaireaux. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poème, chanson, brûlot vous ouvre des mondes plus beaux, des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. D'un Léoto, ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots emmènent mon esprit vers le haut, emmènent mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses.
Alors, Fabienne Chartier, bonjour.
Bonjour.
Dans un premier temps, présentez-vous, quel est votre parcours professionnel ?
Alors, mon parcours professionnel, j'ai fait des études de lettres modernes et ensuite de linguistique. Et puis après, j'ai passé mon diplôme de professeur CAPEJ, C-A-P-E-J-S, donc certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement des jeunes sourds. Et puis, depuis 2000, je travaille dans le milieu de la surdité. Je suis enseignante spécialisée.
Et pourquoi justement avoir choisi de devenir professeure spécialisée ?
Pourquoi avoir choisi ? Alors, j'ai toujours voulu être professeure, un peu comme beaucoup de petites filles, mais tout le monde ne va pas au bout de ça. Donc moi, j'ai toujours voulu être maîtresse même. Et puis, quand j'ai eu 14 ans, Je suis partie en voyage scolaire en Grèce et une journée avec ma famille d'accueil, on était dans les transports en commun, je me souviens plus précisément. Et devant moi, il y avait deux petites filles qui signaient, enfin à l'époque je ne savais pas qu'on disait comme ça, mais qui communiquaient en langue des signes. Et quand elles sont sorties du transport, ma première émotion, ça a été la frustration, parce que je ne comprenais pas. Et quand elles sont sorties et que les portes se sont refermées, j'ai dit, ben un jour je saurai. Et un jour, j'ai su. Donc voilà, je me suis spécialisée grâce à cette rencontre-là. Après, j'ai beaucoup douté de moi au début, mais comme pour plein de choses, je pensais qu'il fallait ou une troisième main ou un autre cerveau et que je n'étais pas équipée pour apprendre la langue des signes.
Et comment s'est passé justement l'apprentissage de la langue des signes ?
Ah, ça s'est super bien passé. J'étais à Limoges, donc j'étais en année de licence. Donc là, j'étais en sciences du langage, en linguistique plutôt. Et la fac a signé une convention avec l'association qui m'apprenait la langue des signes pour que je puisse manquer la fac une semaine par mois, donc ce qui n'est pas rien. Mais du coup, ça me permettait de réaliser mon projet et d'apprendre la langue des signes. Donc pendant une année, j'ai passé mes 12 niveaux de langue des signes. Maintenant, ça marche plus en numéros. Ça marche en niveau A, niveau B, niveau C. Donc, je suis allée jusqu'au niveau B1, en fait, à l'époque. Enfin, c'était niveau 12 à l'époque. Maintenant, ça s'appellerait plutôt un niveau B1. Et du coup, ça s'est très, très bien passé. Je me suis investie dans l'association. J'ai beaucoup rencontré de personnes sourdes. J'ai ma prof de langue des signes qui était donc sourde profonde et qui, dès mon niveau 4... Donc, juste après 120 heures de langue des signes, elle m'a mise en traduction de l'Assemblée Générale de son association. Donc, moi, j'étais là, j'ai dit, mais je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir, c'est pas possible. Et elle m'a dit, mais t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Donc, bilan financier, on n'avait pas encore vu les nombres, je ne savais pas dire bilan, je ne savais pas lire financier. En fait, au fur et à mesure qu'elle faisait son procès, enfin, son Assemblée Générale, qu'elle me dictait le contenu de l'Assemblée Générale, elle me transmettait le vocabulaire. Voilà, c'était un cours supplémentaire et du coup, donc, j'ai rapidement été mise en situation de trait d'union, de traductrice en fait, entre les entendants et les sourds. Voilà, parce que ce professeur-là a cru en moi et vu un potentiel dont je n'avais pas conscience à l'époque.
Et vous présidez une association ?
Oui, je suis présidente de l'association Signes Ensemble. Donc, quand je suis arrivée à Alençon en 2002, j'avais déjà un bon niveau et des bonnes compétences en langue des signes. Et en 2003, je suis partie justement en formation pour passer mon diplôme. Et là, on part 2 ans à Chambéry. Donc, c'est compliqué pour faire autre chose. Et puis voilà. J'ai été diplômée en 2007. Et puis du coup, en 2008, j'ai fait une formation. En février 2008, j'ai fait une formation pour être animatrice bébé signeur. Donc les bébés signes, c'est très à la mode en ce moment. On prend des signes de la langue des signes et qu'on transmet aux bébés, en fait, qui sont entendants. Hein. C'est-à-dire qu'on part du principe que les enfants, ils font des gestes naturels. Le cacher, coucou, au revoir. Et du coup, on prend des signes comme encore, merci, musique. Enfin, après, ça dépend de l'univers du bébé. Changer la couche, boire, manger. On transmet ces signes-là au bébé, puisque avant que la parole se mette en place, il n'a pas trop de moyens d'expression. Donc là, il va pouvoir exprimer plus de besoins et il aura moins de frustrations qui seront liées à l'incompréhension. Donc du coup, j'ai fait cette formation-là en février 2008. Et comme c'était une formation où il fallait faire payer les familles qui participaient à cette formation, il me fallait un cadre juridique. Et pour le coup, quand j'ai créé mon association, je me suis dit, attends, à Alençon, il n'y a pas de café des signes. On faisait aussi des informations sur l'ité. J'avais été contactée par l'hôpital d'Argentan pour justement qu'ils avaient reçu une personne sourde, un patient sourd. Et donc, il fallait leur donner quelques billes, en fait. Donc, quand j'ai créé l'association début septembre 2008, j'ai aussi créé d'autres activités que les bébés signes. Donc, les cafés signes, les informations surdité, enfin voilà, qu'on fait encore. Et puis, je crois l'année d'après, ou peut-être pas une année, mais on nous a beaucoup demandé des ateliers de sensibilisation, donc là où on apprenait la langue des signes, donc on a rajouté cette activité-là. Et à l'heure actuelle, c'est l'activité qui ramène beaucoup de personnes et chaque adhérent de l'association Signes Ensemble vient avec son désir, son envie et ses besoins aussi. Alors on a des professionnels, on a des grands-parents, on a des personnes qui ont toujours rêvé d'apprendre, qui n'ont jamais eu l'occasion et qui là font le premier pas. Donc voilà, l'association, elle a souffert du Covid comme beaucoup d'autres structures, mais bon, cette année, l'association s'est bien relevée, on a plein de personnes très motivées, donc voilà, ça fait très plaisir.
Oui, donc vous présidez bien sûr cette association et à côté, bien sûr, vous écrivez. Quel genre d'écrit ?
Alors, pour le coup, le livre que j'ai publié, ce sont des écrits du temps passé, puisque ces textes-là, je les ai écrits à partir de 1991, donc j'avais 14 ans. Et le dernier, il date de 2007, je ne sais plus, de mes 27 ans, c'est ça. 27 ans, 2003, voilà.
Et comment vous êtes mise à l'écriture de poèmes ?
Alors là, j'ai toujours été attirée par la poésie. Mon livre de chevet, c'est le livre de Jacques Prévert, un livre de Jacques Prévert que j'aime lire et relire. Et puis un livre de poésie, ce qui est bien, c'est qu'on ne doit pas commencer à la première page et terminer à la dernière page. On peut prendre le poème qui nous parle à un moment donné. Et du coup, je me suis mise à écrire. Au départ, c'était des situations. Donc moi, j'étais en quatrième à l'époque et on avait des secondes, des élèves de seconde avec qui on s'entendait bien. Puis un jour, on les voit pas en cours de récré et on s'aperçoit qu'ils sont enfermés dans le réfectoire. Et en fait, ils passaient juste un examen sur 3 ou 4 heures. Et du coup, je crois que c'est un des premiers textes que j'ai écrit en me disant, on vous a enfermés dans une salle toute la matinée pour vous tester. Enfin, et c'est de là, c'est parti. Et je me suis mise en fait à écrire en rythme. Pour moi, ça me semblait plus naturel, en tout cas. Enfin, c'était plus facile, hein. Mais pour le coup, ça me semblait plus naturel pour moi. Voilà. Et donc, c'est cette première situation-là qui m'a fait écrire un premier poème. Puis après, comme je l'ai lu aux copines et tout, elles m'ont dit « c'est bien, enfin, vas-y, continue ». Donc après, chaque situation, c'est vrai que j'ai écrit pour un professeur la même année, notre professeur de latin qui est tombé malade, qui a été remplacé. On nous a dit « écrivez-lui une lettre ». Et moi, je lui ai écrit un poème. Il n'est pas très très long. Et du coup, quand elle nous a répondu, elle a dit « peut-être que certains deviendront de grands auteurs ». Mais c'était les débuts, c'était plutôt sous forme de dédicaces ou de moments qui m'ont plutôt marquée. Et puis ensuite, ça a été aussi une façon pour moi d'exprimer des émotions. Parce que à l'adolescence, j'étais plutôt transparente et muette. Voilà, ça c'est clair, si on pouvait ne pas me voir et ne pas m'entendre, ça m'allait très bien. Mais du coup, à un moment donné, je ne pouvais pas tout garder en intérieur, donc j'ai tout sorti sur le papier. Après, il y a des poèmes qui sont devenus des jeux, en fait. Je me suis dit, tiens, si tu faisais que des hymnes en hur, c'est un son qui n'est pas très beau, mais que tout est vers, il se termine en hur. Après, je me lançais des défis aussi au niveau des champs lexicaux, le champ lexical de l'argent, par exemple. Enfin, voilà, les sens aussi. J'ai beaucoup écrit sur les 5 sens, parce qu'après les avoir relus, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup les 5 sens. Donc, voilà, c'est parti comme ça.
Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! Sans personne, sans repère, sans boussole solitaire, je pensais avoir les pieds sur terre, mais j'ai le mal de mer. Ici tout me pompe l'air, j'étouffe, j'ai besoin d'air, lui changer d'atmosphère, mais dites-moi comment faire. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever. Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever.
Pour redonner de la lumière, je ferai partie des volontaires. Il suffit parfois de rien pour inonder toute la terre entière. Au-delà de nos différences, au-delà de tout commentaire, que l'on soit né ici en France ou à l'autre bout de l'hémisphère. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut,
on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider.
Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner.
Plus haut, il faudra bien nous élever.
Vous avez sorti ce recueil de poèmes Paris Tenu. Déjà, pourquoi ce nom ?
Alors, Paris Tenu, c'est le titre du dernier poème qui est dans le recueil. En fait, j'ai commencé à écrire en 1991, mais j'étais quand même une jeune fille, enfin voilà, à 14 ans. Et en 98, j'ai écrit un poème qui sert de préface, en fait, à ce livre-là, et dans lequel je mets à un moment ces vers qui rêvent d'être imprimés. Donc déjà, depuis 1998, j'avais cette envie-là de publier ces poèmes. Du coup, Paris Tenu, parce que c'est un poème que j'aime beaucoup. Et puis, il y a un petit peu de moi dedans. Pas beaucoup, en fait. Il y a juste un vers qui parle de moi, et voilà, ça donne une petite info. Voilà, donc Paris Tenu pour le titre d'un poème que j'aime beaucoup et puis pour l'envie que j'avais, qui était d'aller jusqu'à la publication de ce livre.
Et qu'est-ce qu'on retrouve comme poème dans ce recueil ? Peut-être les différents thèmes ?
Alors, j'ai préféré donc classer mes poèmes par thématique, en fait, plutôt que par chronologie. Alors, c'était une décision de ma part, parce que si j'avais classé par chronologie, les tout premiers poèmes, en fait, c'est ceux qui dataient donc de 91. Et je me suis dit, c'est pas forcément accrocheur au début, parce que ce sont des poèmes de jeunes filles, de jeunes adolescentes, tout ça. Donc je me dis, non, je voulais un poème qui percute, enfin voilà, qui soit un peu plus accrocheur, plus dans l'humour aussi. Donc j'ai choisi, à partir de ce moment-là, quand je me suis dit, non, tu vas pas les mettre en ordre chronologique, j'ai décidé de les classer par thème. Donc il y a le thème qui s'appelle « Délire ». J'ai un thème qui s'appelle « Moquerie », j'ai un thème qui s'appelle « Désir », j'ai le thème qui s'appelle « Enfantillage », parce que pour le coup, les premiers poèmes que j'ai écrits font quand même partie de ce que j'ai ressenti à certains moments et puis de ce que j'ai eu envie d'écrire. Donc voilà, donc ils font partie aussi de ce recueil. J'ai une partie « Colère », j'ai une partie « Tristesse », et puis la dernière partie, parce que je pensais qu'elle parlerait moins au lecteur, c'est la partie « Dédicace ». C'est-à-dire qu'à un certain moment aussi, j'avais des personnes qui me commandaient des poèmes. Alors, j'en ai pas 50, hein, mais on me demandait, tiens, je voudrais bien si tu pouvais écrire un poème sur mon meilleur ami ou telle personne, voilà. Donc, je faisais un peu des interviews, je demandais les goûts, voilà. Et puis, j'écrivais comme ça. Après, moi, j'ai ressenti aussi d'écrire pour ma meilleure amie, d'écrire pour mon parrain, d'écrire aussi pour ma filleule, quand j'ai eu cet honneur-là, quand on m'a donné le rôle de marraine. Et puis, la petite anecdote qui s'est passée ce week-end, donc suite à l'article qui est paru dans le journal, dans l'Orne Hebdo, il y a un monsieur qui m'a contacté, que je connais pas, parce que moi, la plupart des ventes de livres que j'ai faites, c'est auprès de ma famille et de mes amis. Et là, il y a un monsieur que je connais pas qui m'a contacté et il m'a dit « je voudrais bien vous acheter un livre ». Bon, ok, donc on s'est donné rendez-vous à Alençon, voilà. Et puis, quelques minutes après, parce qu'il devait pas habiter très loin de là où on s'est retrouvé, il me dit « j'en ai déjà lu 6, c'est trop bien, j'ai rigolé ». Et du coup, ça explique aussi pourquoi j'ai rangé dans cet ordre-là. C'était pour que les débuts soient assez accrocheurs et assez rigolos aussi. Il y a beaucoup d'humour. Et puis le soir, il me dit « ça y est, je l'ai lu, je suis arrivée jusqu'au bout ». Et un de mes poèmes préférés, c'est le poème qui s'appelle « Amandine ». Et c'est un des poèmes les plus personnels que j'ai fait. Donc je me suis dit, mais il parlera jamais à personne d'autre que moi. Et en fait, lui, il s'est retrouvé en tant que parrain dans ce poème-là. Et il a tout à fait lu mes mots et il les a collés à ton rôle de parrain. Donc un des poèmes où moi j'aurais dit, ben non, celui-là il parle à personne, il est dans la partie dédicace, donc c'est vraiment que moi. Et ben voilà, c'est un des poèmes qu'il a le plus apprécié.
Et comment s'est passée sinon l'édition de ce recueil de poèmes ?
Ah, alors ça, c'était la plus grosse partie, je dirais, puisque moi, mes poèmes donc, qui étaient déjà écrits depuis un certain moment, j'ai remodifié un petit peu certaines phrases que je trouvais un petit peu cucu, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, je me dis non, ça marche pas, donc j'ai un peu remodifié. J'ai corrigé les fautes d'orthographe et de grammaire, et ensuite, je me suis dit, mais comment on fait ? Donc, dans mon entourage, j'ai plusieurs copines qui, elles, ont publié aussi des livres. Alors, pas des recueils de poésie, mais des livres. Et donc, je me suis dit, ben, autant leur demander conseil. Et en fait, elles ont fait déjà plein de démarches, le déroulé comme il devait être fait. Et elles m'ont dit, écoute, passe directement à l'auto-édition. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais leur faire confiance et je suis passée par l'auto-édition. Donc, déjà, il a fallu aussi que je commande un numéro d'ISBN. Voilà, auprès de la Bibliothèque nationale de France. Qu'est-ce que j'ai dû faire aussi? Je ne sais plus. Enfin, voilà, il y a quelques petites choses à faire. Et puis, l'auto-édition, en fait, moi, pour le coup, j'ai dépensé que 200 ou 300, enfin, pas tout à fait 300 euros, je pense. Ou, voilà. Et donc, je suis passée en auto-édition. Et ben là, ce qui était plus compliqué, c'est que moi, j'ai un esprit pratique qui est très particulier, qui ne fonctionne pas tout le temps comme il devrait. Et donc, à côté de moi, j'avais toujours mon livre de Jacques Prévert et je me dis, voilà, je voudrais qu'il ressemble à un livre de poche. Et pour le coup, mon livre ne ressemble absolument pas à un livre de poche. Donc, j'ai travaillé sur un site, oui, c'était traduit en français, mais du coup, voilà, il y avait beaucoup de choses en anglais aussi. Et j'ai fait une première maquette. Donc j'avais essayé de tout bien faire, quand je vous dis essayer vraiment, et quand j'ai téléchargé mon contenu en format PDF sur le site, j'avais des triangles rouges partout parce que je sortais du cadre, et donc du coup, j'ai dû augmenter la taille du manuel parce que je me dis comme ça rentrera mieux dans les marges et tout. Enfin voilà, là c'était plus le côté pratique qui était moins facile, mais pour le coup ce livre-là, donc il m'a permis de savoir déjà comment on faisait, comment ça se passait, quelles étaient les démarches légales à faire, et puis aussi de me dire bon ben voilà, j'ai déjà fait ça. Alors je vais dire que au niveau pratique, ce livre-là, il va me servir de brouillon parce que j'espère que je ferai plus les petites erreurs que j'ai faites de mise en page ou de présentation. Mais pour le coup, le contenu, c'est pas un brouillon. Hein. C'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi. Donc voilà, c'était l'auto-édition. C'était suite à des amis, des parcours d'amis. Et puis après, ben, j'ai fait moi, mon petit bonhomme de chemin, en comprenant pas forcément tout. Et voilà, mais le livre est sorti et ça, c'était top. J'ai eu l'impression d'avoir réussi quelque chose, mais voilà, d'incroyable, alors que c'est quelque chose de pas très incroyable. Mais voilà, j'étais très, très fière et très contente depuis le temps que je voulais le faire.
Et où peut-on acquérir justement ce recueil ?
Eh ben, en fait, il faut me contacter. Alors, j'ai créé une page pour le moment sur le réseau social Facebook. Et puis, pour le moment, j'ai que ce créneau-là. Enfin, pour pouvoir l'acheter, ben, faut me contacter. Donc, les personnes, elles peuvent me contacter par mail sur l'adresse, donc, s comme Sophie, IA, MARS, donc, comme le mois de mars, @hotmail.com. Et puis, sinon, voilà, par Facebook, sur la page Paris Tenue, livre à vendre. Et le livre, il est au tarif de 12 euros.
Est-ce que vous avez des projets en perspective, des projets d'écriture peut-être ?
Alors oui, parce que je vous disais que ça m'avait servi surtout dans la préparation, enfin la mise en page, tout ce qui est côté pratique, ça m'avait appris des choses. Et du coup, j'avais aussi de côté, j'ai 4 nouvelles. Ou des petites histoires qui sont pas très très longues. Donc j'aimerais bien aussi les publier. Par contre, dans l'auto-édition, en tout cas le site que j'ai choisi, il faut minimum 31 pages. Et je pense que mes nouvelles réunies ne font pas 31 pages. Donc ça va me refaire écrire en fait. Je vais devoir compléter ou enrichir mes textes ou alors créer d'autres textes et partir sur un petit livret de poèmes.
Un mot pour la fin ?
Eh ben, je sais que la poésie, c'est pas trop à la mode. Ou alors, comme c'est jamais à la mode, peut-être que c'est tout le temps à la mode. Mais en tout cas, ben, s'il y a des personnes qui souhaitent écrire et qui souhaitent publier ce qu'elles écrivent, ben, faut pas qu'elles hésitent. Parce que moi, pour le coup, j'ai eu de très bons retours. Et puis, personnellement, ça fait beaucoup de bien.
Alors, Madame Fabienne Chartier, je vous remercie et j'espère qu'à travers notre échange, on aura donné envie à nos auditeurs de lire votre recueil de poèmes Paris Tenue. Je vous dis peut-être à bientôt sur notre antenne.
Merci beaucoup à vous et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe.